BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est les pros des cryptos. Bienvenue à tous, nos talents cette semaine qui vont nous accompagner pendant une grosse vingtaine de minutes. Ils nous rejoignent. Claire Balva, elle est la directrice générale de l'ADAN et elle nous rejoint ici en plateau sur le cœur de ce qui fera nos échanges. Bienvenue Claire, ravie de vous retrouver.
Bonjour.
Et Thibaut Boutrou aussi nous rejoint, directeur général lui aussi, mais de Meria. Voilà, il nous accompagne aussi, venu du Grand Nord. Du Grand Nord, j'exagère, la frontière avec le Luxembourg. Pas loin le Luxembourg, la Moselle. Bienvenue Thibaut. Ravi de vous retrouver aussi. J'ai vu que vous étiez baladé ces derniers jours à Paris, d'ailleurs que vous avez apprécié les belles fontaines parisiennes. C'est beau Paris. Bienvenue à tous. Alors justement, il s'en passe des choses. On espère qu'il y a du ruissellement positif qui va arriver. Là, il se trouve que l'Iran, à l'instant, annonce, c'est l'Iran qui le dit, hein, l'ouverture totale du détroit d'Ormuz. D'un coup, les marchés actions sont en train de s'envoler à la hausse, là, plus 2% le CAC. Le baril de pétrole qui lui se casse la figure, 91$ le Brent. On va voir si ça ruisselle durablement sur les marchés, si l'information est confirmée aussi côté américain. Mais l'Iran, donc, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, annonce l'ouverture totale du détroit d'Ormuz, à confirmer quand même. Bien sûr. Alors, nos experts sont là. On va aborder énormément de thématiques et pour mesurer le potentiel technique aussi des cryptos, on va regarder tiens la réaction du Bitcoin à l'instant. Il est en petite hausse, le Bitcoin, 76 237 $. Gilles Santacru est avec nous. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Boursicoté.com. Donc petite accélération du Bitcoin là, 76 000 $. L'Ethereum, lui, est à 2372. Techniquement, comment vous sentez les choses sur les cryptos, Gilles?
Eh bien, je dirais que c'est un petit peu le signal que l'on attendait pour voir un petit ce que les cryptos ont dans le ventre, hein, finalement, puisqu'on commence à avoir une perspective positive. On voit un impact sur le dollar qui baisse fortement là depuis cette annonce, avec une hausse sur les indices. Alors, on a une baisse effectivement du pétrole. Logiquement, ces facteurs devraient favoriser une hausse de l'ensemble des crypto-monnaies. On commence à le voir sur le Bitcoin qui se sert de ce mouvement pour franchir cette zone des 75 000 $ pour Bitcoin que l'on attendait depuis quelques temps. Donc c'est un signal positif qui peut ouvrir la porte à un retour à une dynamique haussière un peu plus forte. Alors c'est encore un peu trop tôt pour le dire, hein. Il faudrait revenir au minimum au-delà des 81 000 $ pour un Bitcoin pour avoir des signaux un peu plus puissants. Mais en tout cas, c'est un bon début. Ça fait maintenant quelques semaines, hein, depuis en gros le début du mois de février, la fin de cette baisse, que nous avons une dynamique qui s'est stabilisée et qui commence à donner des signes d'un possible retour à un mouvement haussier. À voir si l'annonce du jour permettra justement de confirmer cette configuration qui était plutôt haussière. On aura les réponses d'ici quelques minutes, voire quelques jours. On va laisser passer le week-end. Ça sera intéressant de surveiller d'ailleurs les cotations durant le week-end.
Effectivement, on rappelle donc l'annonce iranienne qui demande encore confirmation, à savoir une réouverture, figurez-vous, du détroit d'Ormuz. Bitcoin en hausse aujourd'hui, un peu plus de 76 200 $. Vous nous direz dans un instant sur l'Ether comment vous voyez les choses et le potentiel. Surtout, le pétrole se casse la figure. Hein. Moins 10% pour les cours du Brent, là, d'un seul coup. On a un baril qui vient tangenter les 90 $ et le CAC qui accélère à plus 2%. On verra l'ouverture à Wall Street tout à l'heure. Donc, et Wall Street attendu aussi en forte hausse. Encore une fois, cela demande confirmation. C'est une annonce du ministère iranien des Affaires étrangères. Sur l'Ether, comment est-ce que vous voyez les choses, Gilles?
Ouais, sur le pétrole, on perd 7 $ là en quelques minutes. Alors sur l'Ethereum, on n'est pas loin d'une zone technique qui nous donnera aussi des informations majeures. Cette zone, c'est la zone des 2450 $ pour un Ether. C'est une zone qu'il faudrait dépasser. Là aussi, ça serait un début de signal, puisque la zone qu'il faudrait reprendre pour là aussi avoir des vrais signaux positifs, ça serait 2775 $ pour un Ethereum. Donc là aussi, on est sur un début de mouvement à voir si les prochains jours confirmeront cela. La zone à préserver pour ne pas repartir sur un biais baissier, c'est tout simplement 1740 $. On s'en éloigne petit à petit. Donc, ça redevient positif, mais on attend quand même des confirmations pour avoir un signal un peu plus costaud.
Gilles Santacreux, boursicoté.com. Wall Street attendu en hausse donc tout à l'heure et peut-être une 13e hausse d'affilée sur le Nasdaq. Ce sera à suivre en direct, bien sûr, dans BFM Bourse. Du côté des cryptos, cette question autour du quantique, Satoshi Nakamoto, est-il le maillon faible? Certains chercheurs estiment que les bitcoins abandonnés peuvent constituer un maillon faible face au quantique et appellent même à geler les bitcoins oubliés, dont pourquoi pas ceux de Satoshi Nakamoto. On va en parler ensemble. On parlera du stacking qui cartonne, 32% des Ethers désormais sont mis en jeu, et de la tokenisation qui avance au point que Deutsche Börse, l'un des plus grands opérateurs boursiers en Europe, Deutsche Börse mise sur Kraken. Le géant allemand investit 200 millions de dollars dans Kraken. C'est le signe que les opérateurs boursiers, même ici en Europe, se préparent à peut-être une une prise de pouvoir des tokens, en tout cas une mutation des marchés traditionnels. C'est les pros des cryptos, comme chaque vendredi, en podcast et replay aussi tout au long du week-end. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Ils sont là, Claire Balva, donc bienvenue Claire.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Et Thibaut Boutroux, bienvenue Thibaut.
Merci Guillaume.
Ravi aussi de vous accueillir. Ouais, vous êtes à Paris, l'un et l'autre, puisqu'il y a la Paris Blockchain Week, hein, c'est ça qui a
qui se termine.
Se termine, ouais. C'est une belle édition ou...
Très belle édition, ouais. Très institutionnelle, hein, comme le même parallèle que HSBC à Cannes il y a quelques semaines aussi. On voit beaucoup d'acteurs internationaux qui viennent, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait la même population que quand on a commencé dans cet écosystème.
Oui, ça s'ouvre.
Plus de costumes, un peu moins de t-shirts, mais très intéressant et beaucoup de. C'est tout le parallèle en fait avec un marché qui paraît un petit peu morose en vitrine parce qu'on voit pas forcément beaucoup d'attractivité sur les cours et pour autant on voit pas mal de discussions intéressantes. C'est plus l'infrastructure et c'est plus les coulisses qui sont en train de bouger et ça se matérialise pas encore sur le marché.
Mais même vous, hein, l'évolution vestimentaire, j'ai remarqué un peu quelques années, ouais, ça m'a pas échappé.
Ouais, c'est intéressant parce que moi j'étais à un événement un peu institutionnel cette semaine où je discutais avec quelqu'un qui travaille dans une administration qui me disait c'est incroyable dans ces événements on voit que des jeunes alors que moi j'ai l'impression maintenant que le secteur a déjà beaucoup vieilli et que finalement il y a beaucoup de cheveux blancs par rapport à avant, donc comme quoi
drôle.
Les différents secteurs se réunissent.
Mais oui, c'est une zone de contact, c'est un point de rencontre aussi entre générations désormais les cryptos, mais oui c'est vrai en plus hein. Alors le Bitcoin, il plafonne un peu, on est d'accord depuis quelques semaines, mais enfin il attire quand même toujours. Morgan Stanley vient de réaliser son meilleur lancement d'ETF grâce à un ETF Bitcoin. Du coup ça attire et on apprend même que Goldman Sachs, Thibault, va lancer un ETF exposé au Bitcoin.
Ouais, bah c'est un petit événement mais qui en fait... qui illustre parfaitement toute la symbolique de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que cet ETF il collecte 30 millions sur la première journée, 100 millions sur une semaine, c'est plus que ce qui était attendu, c'est plus que les estimations qui avaient été faites, c'est le premier qui est fait par une grande banque américaine, ça a été salué par le New York Stock Exchange, tout a été fait en grande pompe et ça donne aussi des idées, c'est-à-dire que Bitcoin est devenu un actif qui est incontournable en finance traditionnelle, on le répète depuis quelques temps maintenant, mais là maintenant ça se matérialise par des faits, dans un contexte où on a l'impression que le marché est un peu plus morose et qu'il y a un petit peu de désengagement des investisseurs, on se rend compte que finalement pas tant que ça, parce que là on a des chiffres à l'appui qui montrent qu'il y a un succès et ça donne des idées, derrière quand on a Goldman Sachs qui prend le pas, alors ils veulent pas tout à fait faire la même chose parce qu'ils veulent faire de manière indirecte, donc avec des produits qui sont indirectement liés à Bitcoin pour pouvoir exposer leurs investisseurs, alors qu'il y a encore quelques années eux pour le coup ils étaient vraiment fervents opposants au sujet, donc il y a vraiment un changement de mentalité qui est en train de s'opérer, ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi sur des changements de mentalité en interne, où on est vraiment sur ce point de rencontre, aujourd'hui on trouve des interlocuteurs qui comprennent le sujet partout et aujourd'hui ça devient impossible de passer à côté en fait. Donc ça y est, le merge est en train de se faire et ça promet encore plus d'intégration parce que là c'est la population qu'on voit de toute manière sur les événements, les institutions financières sont représentées, les banques sont représentées, elles ont des roadmaps qui sont plus ou moins claires mais en tout cas elles sont toutes unanimes sur le fait qu'il faut y aller.
Oui, Bitcoin, la pyramide de, ouais, imaginons Bitcoin soit une pyramide, j'ai pas dit Ponzi, juste une pyramide comme ça, la base est de plus en plus large quand même, on le voit, et à travers tous ces ETF, et même Goldman Sachs qui compte lancer désormais un ETF lié au Bitcoin.
C'est ça.
Voilà. Et en face, Ether. Alors Ethereum, la blockchain, ses propres arguments, bien sûr, pour le rendement, le stacking, c'est plutôt sur Ethereum, ça se passe au point qu'on bat des records de stacking, là, 32% des Ethers désormais sont mis en jeu.
Ouais. Alors bon, le 32%, c'est un record, mais en réalité, il a pas tant d'importance que ça. Je veux dire, la différence entre 32 ou 30, ça change pas grand chose. Ce qui est intéressant, ce que ça nous dit, c'est que à un moment où le cours de l'Ether a un petit peu de mal à suivre aussi, même par rapport à Bitcoin, on voit que effectivement, les spéculateurs à court terme, ils ont plutôt tendance à déboucler, mais ceux qui sont là pour des positions long terme, ils stake. Et donc, plus on a c'est plus la tendance qui est intéressante. C'est-à-dire, comme on voit ce montant qui augmente, ça veut dire qu'on a quand même des gens qui gardent des convictions sur Ether et qui restent positionnés. Donc ça, c'est aussi le fruit de tout ce qu'a fait Ether sur les dernières semaines. Une clarification sur la roadmap, de la visite qui a été donnée. Toutes les nouvelles annonces aussi sur les rails qui sont en train de se faire au niveau de du merge entre la finance traditionnelle et la finance crypto. Beaucoup de choses sont en train de se construire sur Ether. Donc Ether bénéficie pas encore tout de suite sur le cours, mais en tout cas, ça contribue à renforcer un petit peu le rapport de confiance qu'il y a avec Ether. Et donc, bah, ça, c'est une illustration qui ne se voit pas encore sur le cours, mais qu'on peut voir à travers ce chiffre-là et qui montre qu'il y a encore des investisseurs qui ont confiance en Ether.
Intéressant. Là, c'est le tableau de bord, l'état des cryptos. Et pendant ce temps, l'intégration à la finance traditionnelle bah, qui s'annonce hein, toujours plus loin dans la tokenisation. La finance tradi s'y prépare en tout cas. Le géant Deutsche Börse, clair, grand opérateur boursier européen, a annoncé un investissement de 200 millions de dollars dans Kraken.
Bonne et mauvaise nouvelle pour Kraken. Alors très bonne nouvelle évidemment parce que c'est un symbole, hein, c'est le géant boursier allemand. Deutsche Börse s'était déjà impliqué sur les sujets blockchain crypto puisqu'il y a 2 ans ils avaient annoncé la création d'une sorte de plateforme d'échange, hein, des BDX. Et on voit là qu'ils poursuivent ces investissements dans le secteur crypto. Alors pour Kraken, c'est une bonne nouvelle et ça s'inscrit aussi dans toute une suite d'annonces qui avaient été faites de leur part avec un certain nombre d'institutionnels. Mais il faut voir que cet investissement de 200 millions de dollars, il correspond à 1,5% du capital total de Kraken, ce qui valorise Kraken à un peu plus de 13 milliards de dollars, ce qui est quand même une nette diminution par rapport aux 20 milliards de dollars de valorisation qu'ils avaient atteint en fin d'année dernière après leur levée de fonds. Donc, bonne nouvelle parce que ça fait un super partenaire de plus pour aller mener des projets de tokenisation et voilà pouvoir proposer des titres financiers sur blockchain. Et puis si Deutsche Börse va avec Kraken, peut-être que voilà, ça veut dire que Deutsche Börse va peut-être pas travailler avec d'autres acteurs tout de suite. En revanche, en termes de capitalisation et notamment dans les projections d'entrée en bourse potentielle de Kraken, c'est pas très positif. Hein, ils avaient suspendu leur projet d'IPO. Donc, à voir comment ça se passe pour Kraken dans les prochains mois. Est-ce qu'ils vont réussir avec ces partenariats à transformer ça vraiment en potentielle recette et en confiance pour les investisseurs?
Oui. En tout cas, on a là un opérateur boursier européen qui tente de prendre les rênes quoi, de la mutation. En tout cas, y participer, pas trop la subir. Donc, 200 millions d'euros d'investissement dans Kraken annoncé par Deutsche Börse. Le plus gros opérateur boursier européen, il est ici à Paris. Hein. C'est Euronext hein, qui pilote les bourses de Paris, d'Amsterdam, de Lisbonne, beaucoup de bourses européennes. Et on les suit aussi, hein, bien sûr, voir s'il commence à véritablement intégrer cette perspective d'une tokenisation. Et vous le disiez l'un et l'autre, beaucoup de gens, de plus en plus, même la finance traditionnelle, désormais s'intéresse à tout ça, parce qu'il n'y a plus le choix. Alors du coup, la BCE a mené une étude sur ceux qui s'intéressent aux cryptos et même les détenteurs de cryptos en Europe. C'est peut-être plus les mêmes, vous le disiez, vous le laissiez entendre tout à l'heure Thibault, c'est peut-être plus les mêmes qu'il y a 10 ans. Qui sont-ils aujourd'hui les détenteurs de cryptos en Europe, Claire?
Alors, aujourd'hui, Guillaume, il va falloir repasser puisque l'étude se base sur des données qui datent de 2022. Donc elle date déjà il y a 4 ans, mais effectivement ça a mis un peu de temps à sortir, donc on ne les a qu'aujourd'hui. Bon, ça montre aussi un peu quelque part le décalage entre le temps long qui est celui de nos institutions qui voilà sortent des papiers et des données plusieurs années après et le secteur crypto pour qui des données d'il y a 3 mois, c'est déjà des données qui sont un peu vieillissantes. Mais ce qu'on apprend dans cette étude, là, il y a des choses qu'on sait déjà, c'est-à-dire que les détenteurs crypto sont plus jeunes que la moyenne, sont plus souvent des hommes que des femmes, ont un peu plus de liquidité que la moyenne, ce qui est normal pour des investisseurs, qu'ils investissent dans d'autres produits que les cryptos. Mais ce qui est intéressant, moi c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que l'étude essaye d'analyser le rapport pour les investisseurs crypto entre justement la crypto et l'argent liquide. C'est-à-dire est-ce que les investisseurs crypto sont plutôt des gens qui vont tout digitaliser et qui ne vont pas avoir de cash ou alors des gens qui au contraire vont être plutôt en marge du système et qui vont avoir du cash. Et donc ils arrivent à faire plusieurs groupes d'investisseurs en disant finalement il y a des investisseurs crypto qui voient ça comme un moyen d'investissement et qui ne touchent pas tellement au cash, mais de manière générale on voit quand même plutôt une corrélation positive, c'est-à-dire que les investisseurs crypto vont souvent avoir peut-être un peu plus de cash que la moyenne. Et l'étude dit aussi que par contre en temps de crise, et ça a été le cas par exemple pendant le Covid, on voit plutôt que le recours massif au cash, c'est-à-dire les retraits qui vont être faits aux distributeurs parce que on anticipe des problèmes et donc on va aller retirer de l'argent liquide, a pu se faire au détriment des investissements crypto. C'est-à-dire qu'en temps de crise, dans ces moments Covid, les investisseurs ont pu vendre leurs cryptos pour aller retirer du cash aux distributeurs.
Ouais, c'est très intéressant quand même, hein, même si cette étude commence à dater 2022, on le disait. Parmi les détenteurs de crypto, il y a peut-être Christine Lagarde. Kevin Warsh peut-être en revanche. Voilà, le prochain Christine Lagarde, le Christine Lagarde américain Kevin Warsh, c'est celui qui doit prendre la tête de la Fed dans quelques semaines. Ce sera dans pile un mois d'ailleurs, normalement à partir du 15 mai, il succédera à Jerome Powell. Et il se trouve que Kevin Warsh vient de publier les détails de son patrimoine financier. Donc on sait de quoi est composé le patrimoine financier du prochain patron de la Réserve fédérale américaine. Et dedans, il y a certains projets crypto.
Thibaut.
C'est ça, c'est la grande nouveauté et ça continue un peu sur ce qu'on dit depuis le début de l'émission avec ce changement de paradigme. Où, bah là, du coup, la question était pendant longtemps à la Fed, crypto, bien, pas bien. Bah là, du coup, on va potentiellement avoir un président de la Fed qui a de la crypto. Donc la question ne se pose même plus. Alors après, il faut prendre un petit peu de hauteur. Hein. Donc il y a effectivement beaucoup de lignes crypto. Il y en a une trentaine de lignes crypto dans le patrimoine, mais qui sont à chaque fois des toutes petites lignes. Je crois que c'est des lignes qui sont inférieures à 1 000 $ sur un patrimoine global qui est quand même conséquent parce qu'on a un patrimoine qui est supérieur à 100 millions sur l'ensemble. Donc la réalité, c'est que la part de crypto est ridicule. Mais ça veut dire qu'on a quand même quelqu'un qui a regardé, qui a peut-être un petit peu mis les mains dedans et qui comprend le sujet. Tout le paradoxe qui va avec, c'est à quel point du coup il va pouvoir aussi se positionner sur certains sujets, parce que il y a toute la notion d'éthique, de conflit d'intérêts qui peut entrer en jeu. Mais en tout cas, ça veut dire que dans les discussions, on va avoir à la tête quelqu'un qui comprend un peu le sujet, qui est un peu maturé, qui va pouvoir argumenter aussi différemment. Donc on va voir comment ça va se positionner. Et est-ce qu'il va pouvoir aussi en jouer et pas être trop pénalisé justement par cette exposition crypto. Donc ça peut être aussi bien une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle.
Attention au côté jugé parti, toujours.
Exactement.
Et justement, les Américains, il continue d'avancer, on voit beaucoup Donald Trump sur le front international, énormément même. Est-ce que sur le front de la réglementation crypto, l'administration Trump continue d'avancer? Le Clarity Act, par exemple, on en est où là, Claire?
Alors, les discussions ont repris cette semaine et on a eu des propos optimistes de Patrick Witt, qui est en gros un des conseillers de Donald Trump sur les actifs numériques, qui dit que la liste des problèmes insurmontables s'est considérablement réduite. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il semble que beaucoup de compromis ont été trouvés. Il y a quand même un problème assez épineux qui reste là, hein, c'est celui du rendement sur les stablecoins, qui est vraiment le sujet sur lequel s'affrontent, je dirais, les acteurs natifs du secteur et le secteur bancaire, qui est fermement opposé à la possibilité d'offrir du rendement sur les stablecoins. Et de leur côté, ce qu'on appelle les PSAN en français, donc les plateformes d'échange de crypto, elles souhaitent pouvoir facilement distribuer à leurs clients du rendement sur ces fameux stablecoins. On a un peu le même affrontement en Europe, hein, et donc forcément on suit beaucoup ce qui se passe aux États-Unis parce qu'on sent que selon de quel côté va pencher la balance sur le Clarity Act, ça pourrait inspirer assez vite les Européens.
À suivre donc effectivement les États-Unis qui pourraient inspirer les Européens. On vous livre à nouveau l'actu de cet après-midi. L'Iran annonce la réouverture du détroit d'Ormuz le temps du cessez-le-feu et les États-Unis valident. Donald Trump, dans un post sur Truth Social, dit merci l'Iran. Voilà, donc réouverture le temps du cessez-le-feu, ce cessez-le-feu doit s'achever, je crois, quand même la semaine prochaine. Hein. Mais en tout cas, l'Iran confirme la réouverture du détroit d'Ormuz. Résultat, les cours du pétrole reculent nettement. On repasse à l'instant sous les 90 sur le Brent. Hein. Vous savez que la semaine dernière, on était passé sous les 100 $ avec le cessez-le-feu. Là, avec la réouverture d'Ormuz, on passe sous les 90. On passe un seuil supplémentaire à la baisse, 89 $ pour le baril de Brent, qui perd là d'un coup cet après-midi 10%. Le CAC en direct gagne 2%. Wall Street attendu en hausse tout à l'heure à l'ouverture. Ce serait la 13e. Séance de hausse d'affilée pour le Nasdaq. Le S&P est attendu, lui, sur un plus haut historique. Oui. On les enchaîne cette semaine, les plus hauts historiques sur l'indice S&P 500. Wall Street semble vouloir pricer la paix. On n'en est pas complètement encore là, on vivra les choses tout à l'heure. Donc à 15h30, il sera 9h30 à New York au réveil des marchés américains. Sur les cryptos, on en est où? Le Bitcoin est en train d'accélérer lui aussi à la hausse, 76 800 $ en ce moment, 76 800. Sauf que le quantique accélère en tout cas. On n'en est pas encore à l'avènement, mais ça accélère. Est-ce qu'on a déjà une idée, Thibaut, de quelle grande crypto est à ce stade la plus exposée au quantique, à l'arrivée du quantique? Et au contraire, les cryptos les moins exposées?
Ouais, alors on sait que Bitcoin, globalement, est la crypto la plus exposée de par les adresses historiques, ce qu'on appelle les adresses de la Satoshi, de l'ère Satoshi, qui sont des portefeuilles qui n'ont pas bougé, qui sont encore sur un ancien modèle de signature et donc qui sont potentiellement plus vulnérables. Donc, toutes les discussions autour du quantique vont principalement autour de ça et du modèle de gouvernance de Bitcoin qui a ses vertus et ses faiblesses, dont le fait qu'il est très compliqué à faire évoluer, que toutes les décisions impliquent un consortium global et donc ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on n'y est pas encore au quantique, mais il faut très largement anticiper la discussion parce que ce qu'on sait, c'est que ça va arriver à un moment donné et ce qu'on sait aussi, c'est qu'a priori, ça va peut-être arriver plus vite que ce qu'on pensait parce qu'on va beaucoup plus vite technologiquement et c'est ce que nous a montré les rapports de Google récemment, etc. Donc, il faut commencer à se poser les questions assez rapidement, même si c'est pas pour tout de suite et pour Bitcoin, ça pourra avoir des conséquences. Sur les autres projets, il y a aussi ce sujet-là, mais on a aussi la capacité à être un peu plus agile. Ethereum, dans sa dernière roadmap, a mis un plan pour pallier justement ces problématiques autour du quantique. Solana a déjà fait tourner des modèles sur son testnet en fin d'année dernière. Alors ça pose des problèmes. Aujourd'hui, on n'est pas optimal parce que typiquement sur Solana, ça leur fait perdre une grande partie de leur performance et donc ils sont moins compétitifs. Mais en tout cas, le sujet, il est pris au sérieux chez tout le monde. Et après, bah, le quantique étant un peu la narrative du jour, on voit aussi certains qui jouent de ça dans l'autre sens. J'ai vu des rapports de Ripple qui eux s'en jouaient de pas être inquiétés par ce sujet-là. Naturellement, il y a, après, dans toutes les informations qui sortent, il y a aussi beaucoup de shows médiatiques pour prendre du recul. Ce qu'on sait, c'est que le quantique va concerner à peu près dans des proportions différentes, mais que le sujet, il est aussi pris en compte par tout le monde aujourd'hui. Donc, des solutions, on en aura. On commence à avoir d'ailleurs des discussions sur les potentielles solutions. Même sur Bitcoin, on commence à avoir des propositions qui sont de plus en plus concrètes, qui prennent différentes directions, qui animent aussi beaucoup les débats. Est-ce qu'il faut geler les anciens Bitcoin? Est-ce qu'il faut forcer des mises à jour, voilà, avant qu'on tombe d'accord, on ne sait pas, mais en tout cas, plus il va y avoir de propositions, plus ça va alimenter les réflexions et plus on va arriver à un point qui met tout le monde d'accord.
Alors, où est le maillon faible face à l'arrivée du quantique? Il reste un peu de temps, mais de moins en moins, on sent effectivement que ça avance beaucoup sur le quantique et que son avènement sera peut-être un peu plus proche, on parle encore en plusieurs années, mais plus proche que ce qu'on imaginait récemment. Est-ce que, par exemple, je dis ça comme ça, les bitcoins de Satoshi Nakamoto peuvent être un risque pour le Bitcoin face au quantique? Certains chercheurs proposent de geler les Bitcoins de Satoshi Nakamoto face au quantique. Est-ce que ce serait possible d'ailleurs, Claire?
Alors, je ne sais pas s'il faut parler de gel ou de mise en sommeil, mais effectivement, il y a une proposition de James Solnit qui a été faite cette semaine sur GitHub. Et il propose de s'attaquer, comme le disait Thibault, à ce problème des anciennes adresses qui sont moins résistantes, je dirais, à une potentielle attaque quantique. Et parmi ces anciennes adresses, celle qui fait le plus parler, forcément, c'est celle, ou en tout cas l'ensemble d'adresses, possédées par Satoshi Nakamoto, avec un montant de Bitcoin assez colossal, hein, qui se compte en dizaines de milliards. Et donc, forcément, ça anime beaucoup les débats et vous le disiez, on est sur une proposition qui ressemble à du gel de Bitcoin et donc certains voient ça d'un mauvais œil parce qu'ils se disent ça revient à pénaliser les utilisateurs inactifs du réseau, hein, qui n'ont pas forcément fait beaucoup de transactions mais qui ont des Bitcoins depuis longtemps et qui ne les ont pas touchés.
Pour le long terme, quoi.
Alors concrètement, elle ne reviendrait pas à geler indéfiniment ces Bitcoins. Ce que cette proposition dit, c'est qu'on pourrait avoir une première phase déjà où on rendrait impossible tout transfert de Bitcoin vers une ancienne adresse, ce qui permettrait de ne pas créer de nouvelles vulnérabilités. Effectivement, il y aurait une deuxième phase où on mettrait, je dirais, en sommeil les Bitcoins sur ces adresses. Et pendant la troisième phase, on permettrait aux utilisateurs qui auraient gardé leurs clés privées de générer une sorte de preuve résistante au quantique pour récupérer les Bitcoins qu'ils avaient. Donc, bon, c'est pas extrêmement satisfaisant parce que ça ressemble à quelque chose d'un peu autoritaire pour Bitcoin. Se dire qu'on peut geler des fonds de quelqu'un, c'est quand même pas dans l'ADN originel. Mais, comme le disait Thibault, ça anime le débat et je pense que c'est sain que l'écosystème Bitcoin se prépare dès maintenant à l'arrivée du quantique parce que même si c'est dans des années ou des dizaines d'années, il va falloir un peu de temps avant que les propositions fassent l'unanimité.
Vous ne pensez pas que cette proposition de certains chercheurs de geler les Bitcoins de Satoshi Nakamoto vise justement à réveiller Satoshi? Le pousser à bouger, c'est trouver qui il est. C'est pas un piège.
Elle vise aussi, je pense, même si c'est pas le but, inconsciemment, une conséquence positive serait une pression haussière, puisqu'on éviterait que les bitcoins de Satoshi Nakamoto soient récupérés par une potentielle attaque quantique. Ça réduirait le nombre total de bitcoins, et donc ça serait plutôt une pression à la hausse du cours.
Nous sommes en avril, les oiseaux, les fleurs, l'herbe bien verte qui pousse à nouveau et les impôts. La déclaration d'impôt est arrivée. Ouvrez votre boîte aux lettres, elle est arrivée. Non, vos mails, ça arrive par mail. Je parle comme un boomer. Qu'est-ce qui, pour les détenteurs de crypto, change cette année dans la déclaration d'impôt, Thibault?
En réalité, il n'y a pas énormément de choses qui changent pour les détenteurs de crypto et sur la manière dont il faut déclarer ces cryptos. Le changement majeur, c'est l'évolution du niveau de la flat tax qui augmente par rapport aux années précédentes. Par contre, il y a un point alors qui va pas concerner directement la déclaration mais qui va concerner l'ensemble des contribuables, c'est ce qu'on appelle le règlement DAC-8 qui est entré en vigueur à partir de janvier de cette année, donc qui impose en fait à toutes les plateformes régulées de collecter l'ensemble des informations des détenteurs de crypto. Et à partir de 2027, ces informations, elles seront communiquées avec les autorités fiscales, donc ce qui va rendre entre guillemets la fraude, ou en tout cas de ceux qui déclarent pas aujourd'hui correctement leur crypto, beaucoup plus compliqué derrière à justifier, sachant que l'administration fiscale peut aussi revenir en arrière dans les contrôles. Donc voilà, c'est le gros point à avoir en tête. Et après, il y a un autre point, mais qui ne concerne pas du coup tout de suite, c'est toutes les discussions qui sont en cours, parce qu'il va y avoir très certainement des évolutions. L'ADAN travaille notamment sur beaucoup de propositions pour essayer de faire évoluer, clarifier et améliorer un petit peu ce cadre fiscal. On a vu beaucoup de politiques cette semaine qui ont fait beaucoup de discours en parlant d'attractivité du territoire, etc. Ça pourrait être une très belle manière de matérialiser cette attractivité en encourageant un petit peu les entrepreneurs à rester, ou les autres entrepreneurs à revenir, ou d'autres peut-être à venir s'installer. Donc il y a beaucoup de points d'amélioration qui sont pas forcément des points majeurs ou des choses qui s'appliquent même à d'autres secteurs. Donc on va voir ce que ça va donner.
Oui, vous avez du pain sur la planche, hein, Claire. À un an de les présidentielles, vous allez les croiser, tous les candidats à la présidentielle. Il va falloir les convaincre de faire un effort fiscal.
Ça fait partie des nombreuses choses sur lesquelles on essaie de convaincre.
Oui. Alors on n'est jamais mieux servi que par soi-même. D'ailleurs, est-ce que les stablecoins permettent d'échapper à l'impôt? La réponse est non.
Toujours pas.
Toujours pas. Et donc on n'est jamais mieux dans cet univers des stablecoins servi par soi-même. Les stablecoins cartonnent, mais c'est pas encore assez. Tether, le leader mondial, lance son propre wallet pour encore plus faire de transactions en USDT. On l'imagine gadget, où ça peut vraiment booster davantage encore la reine des cryptos, Claire?
Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Tether avait déjà annoncé sa volonté de se diversifier. Oui. Au-delà de son stablecoin USDT, il y a 2 ans, ils avaient fait un communiqué de presse. Donc, ils parlaient de mining de Bitcoin, par exemple. Ils parlaient d'IA. Donc, ils voulaient vraiment aller plus loin que le stablecoin. Et j'ai envie de dire, ils en ont les moyens, puisque c'est une entreprise qui fait énormément de profits. Et là, l'enjeu derrière ce wallet, c'est à la fois un enjeu de diversification, mais c'est aussi un enjeu de distribution. Pour faire en sorte que l'USDT puisse toujours être disponible, et je dirais même non seulement disponible, mais favorisé par rapport aux autres stablecoins, sur un portefeuille dédié, avec même des sortes de noms de domaine. Hein, il propose un domaine où vous allez pouvoir mettre un pseudo ou votre nom, @tether.me, plutôt que des adresses Ethereum relativement compliquées. Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter l'expérience utilisateur, de promouvoir l'USDT. Vous savez que Tether, évidemment, pour lister son stablecoin USDT, doit discuter avec un certain nombre de partenaires, hein, des plateformes d'échange, d'autres portefeuilles. Et donc, le fait d'avoir un portefeuille à soi, ça permet aussi d'avoir un levier de négociation supplémentaire avec les autres distributeurs, en disant, moi, de toute façon, si j'ai suffisamment d'utilisateurs qui utilisent mon portefeuille, ça me fait toujours une sorte de backup. Et puis, je sais de quoi je parle, puisque moi aussi, je gère un portefeuille. Donc, bon, c'est intéressant. Maintenant, c'est un nouveau portefeuille dans un paysage qui est déjà relativement saturé, avec un concurrent qui est ultra dominant, qui est MetaMask. Mais c'est pas les seuls, hein. Les grandes plateformes d'échange ont quasiment toutes leurs portefeuilles aussi. Donc ça va pas être si facile pour Tether de s'imposer avec ce nouvel outil. D'autres ont essayé, hein. Je dis toutes les plateformes d'échange ont un portefeuille, mais oui. Je pense que la plupart des gens ne le savent pas, parce que pour la plupart des gens ne vont pas utiliser les portefeuilles en self-custody de leur plateforme d'échange.
Il suffit pas d'avoir l'actif, avoir un support véritablement populaire.
Exactement.
C'est encore autre chose, ouais.
Exactement.
Intéressant. C'est les pros des cryptos. Chaque semaine, à retrouver tout au long du week-end en podcast et replay. Merci beaucoup Claire Balva, directrice générale de l'ADAN, et Thibaut Boutrou, directeur général de Meria. Bon week-end à tous les deux. On a un Bitcoin qui progresse donc cet après-midi. Des marchés actions aussi qui accélèrent nettement à la hausse, parce que l'Iran annonce l'ouverture totale. Tous les mots sont importants. L'ouverture totale du détroit d'Ormuz jusqu'à la fin du cessez-le-feu. Ouverture totale du détroit d'Ormuz confirmée par Donald Trump, qui à l'instant remercie l'Iran. Figurez-vous, ce cessez-le-feu qui doit, je crois, quand même s'achever dans seulement quelques jours. Donc toute cette parenthèse risque d'être relativement courte, trop courte sans doute pour que les bateaux trouvent des assureurs et que le trafic reparte comme une balle. On va en parler dans un instant et on vivra en direct l'ouverture des marchés américains. À tout de suite pour BFM Bourse.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.